Jardin d'Isis, une émission réalisée par Marie-Agnès Salezada sur Radio FM+. Émission dont on peut retrouver les podcasts sur Radio FM+, et également sur les contenus de Facebook, sur ma page Facebook. J'ai le plaisir de présenter dans Jardin d'Isis le poète Claude Saint-Ignan. Bonjour Claude.
Bonjour Marie-Agnès.
Claude écrit, Claude Saint-Ignan écrit, il fréquente des poètes, des lieux de poésie, il écrit de la poésie et les cercles poétiques depuis de nombreuses années. Alors Claude,
oui, hélas, depuis beaucoup d'années, puisque j'en ai 80, ça fait beaucoup d'années de fréquentation de l'univers poétique, oui. Alors bon, comme cercle de poésie, bien sûr cette maison de la poésie qui a été créée à Montpellier par Annie Estève, que j'ai eu le bonheur de connaître très tôt, lorsqu'elle était professeure à la Grande Motte, où j'étais libraire, et où on avait déjà coopéré, travaillé un petit peu ensemble, enfin, moi très peu à côté d'elle, sur cet univers de la communication, de la poésie. Quoi.
Et voilà. Vous avez fréquenté la librairie Molière également, Claude?
Ah, mais la librairie Molière, c'était mon concurrent et complice. Quand je passais à côté de la librairie Molière, je regardais la vitrine et il y avait toujours en vitrine les livres que moi aussi je mettais en vitrine, ce qui montrait une communion de pensée très étroite avec Jean de Bernard et puis que j'ai beaucoup aimé. Et naturellement, j'assistais dès que je pouvais à ces réunions d'auteurs qu'il faisait, notamment l'immense Frédéric Jacques Temple, mais on pourrait en citer d'autres.
Alors Claude Saint-Ignan, vous avez été primé lors du concours, on peut dire un concours, une sélection Nouvelle Voix d'ici en 2020 avec un texte Chemin Blanc, dont nous allons découvrir quelques textes, au vocabulaire élaboré, contemplant des références multiples. Ce texte est inspiré par des paysages de garrigues, des hauts cantons, des marais et célèbre la nature, les oiseaux. En préambule, vous commencez par un questionnement. Le regard a-t-il, au-delà des multiples expressions du visage, une existence propre? Interrogation qui se poursuit autour de l'identité, de la singularité. Ces textes sont soit des textes en prose ou alors des huitains, comportent de superbes images poétiques. Je cite quelques images. Les cuisses du torrent. Le jupon de feuilles mortes, etc. Vous parlez dans vos textes en prose de 5 principes d'écriture et d'une règle d'exclusion. Si vous pouvez nous en parler, mais assez brièvement pour qu'on puisse écouter vos textes également.
Alors, c'est ce texte-là, il est naturellement au départ prosaïque. Et quand il fait silence, c'est la poésie qui arrive. Parce que la poésie, il est toujours extérieure à l'auteur. Hein. Il n'est pas un autre pour rien, quoi. Et donc, ça vient de l'extérieur, la poésie. D'ailleurs, Heidegger dit, quand il étudie l'Iliade d'Homère, il dit, Homère, dans l'incipit de l'Iliade, il ne s'adresse pas aux muses, il est convoqué. Il est convoqué par la muse. Et c'est un peu différent, c'est-à-dire que la poésie, c'est ce qui s'impose. Le texte en prose, c'est ce qui se réfléchit. Et alors, pour ce qui est des cinq principes, c'est un peu une provocation, quoi, un amusement, une provocation. Alors, le premier des principes, c'est que, paradoxalement, toute œuvre écrite, c'est une description du triomphe du mal. Et ça, c'est un paradoxe, puisque lorsqu'on se met à écrire, c'est pour s'améliorer soi et tenter autant que faire se peut d'améliorer le monde. Or, c'est le principe, c'est le triomphe du mal. En plus, grande frustration, c'est le deuxième principe, l'auteur ne doit surtout pas pénétrer son œuvre. Dès qu'il la pénètre, c'est la catastrophe. Le troisième principe, c'est que l'œuvre, elle sera toujours imparfaite parce qu'elle ne s'adresse pas à Dieu, elle s'adresse aux hommes. Il n'y a que le langage de Dieu qui est parfait et le langage des hommes, il ne le sera jamais. Ensuite, le quatrième principe, c'est qu'on est confronté à un choix. Soit on va écrire de manière alimentaire, alors là, on va produire, mais on va être saisi par la prosopopée, c'est-à-dire que l'œuvre s'arrête et puis on est saisi par ses personnages et puis on ne peut pas en sortir, c'est le cas de Conan Doyle. Bon, ou soit, comme le préconise Kenneth White, l'art peut être un yoga, c'est-à-dire qu'il vise l'amélioration de soi. Mais à ce moment-là, lorsque l'art est un yoga, ce qu'il a été pour moi d'ailleurs, eh bien, on sait qu'on n'en vivra pas. Il faut absolument avoir une autre activité.
On va aller à la découverte d'un de vos poèmes, Claude Saint-Ignan.
Alors ça, c'est le silence sur l'Aigoual, sur le mont Aigoual. C'est un silence sur le mont Aigoual. Il dévalait les rives des pentes de silence où il se bâtissait des châteaux d'écriture. Dieu était jeune encore. Il avait cet air fou de bel enfant bouclé dans les sous-bois d'automne et des voix détrempées collées à des feuilles mortes au cuir de leurs chaussures. Le torrent partagé de ses cuisses d'argent, le pubis noir et jaune d'une roche couverte de mousse et de lichen, l'aspre, semblait courir vers le nactès immense d'une gorge encaissée. Ils prenaient leurs bâtons, le chien, les sacs de toile, et ils partaient marcher dans les épicéas. La vallée est si verte, aux rives de mémoire, la montagne est si haute, au fil des souvenirs. Il est agile, souple, debout sur un rocher, il crie dans la lumière. Sa voix retentissante fait vibrer les échos. Combien a-t-il vécu ces cathédrales de pierre, la beauté du grand ciel, le fracas du torrent. Vécu, vraiment vécu, fragile, transparent. Sur l'arc brillant du jour, peut-être seulement 30 pauvres secondes. 30 pauvres secondes où il se regardait dans la beauté du monde comme dans un miroir. 30 pauvres secondes où il pouvait crier debout sur un rocher leur amour de la vie, du vent, de la lumière. Maintenant, il est seul. Quand il se sent très mal, il prend un sac d'étoiles et un bâton de rêve. Et il part doucement là-bas, dans la mémoire, pour flotter en silence dans les épicéas.
Alors un autre poème, Silence et Mistral sur le Vidourle à Lunel. Matin des premières gelées, long ruissellement de silence, et cette tache de soleil qui vit là, huilant la route. Quand il ouvrit d'un coup la porte, le silence se froissa soudain, front plissé dans l'aube glacée, comme le regardait le jour. Le froid nouveau le saisissait à bras le corps comme un jeune homme, une embrassade de jeunesse. Le froid le tenait bien serré. Du mur au chaperon tuilé, l'arbre invisible jetait sa branche, étincelante sous le gel, avec encore une feuille jaune. Comme le regard porte au loin, plus loin que ne portent les pas, bien sûr, il va jusqu'aux ailleurs, jusqu'au ventre ocre des nuages, dans le ciel bleu fluide d'opale, jusqu'aux pieds verts de l'arc-en-ciel, là-bas, Heimdall, le lumineux lace ses chaussures brillantes. Il marchait à grandes enjambées, talons frappant le sol sonore. Le froid le tenait embrassé, à bras le corps, comme un jeune homme. Il marchait sur le sol vibrant, seul, insouciant de réveiller la chair nue des platanes mauves. Ah, comme le froid l'ajustait! La brume retroussait ses jupes. Sur les pieds nus, des emblavures, il fit semblant de n'en rien voir, marchant, sans détourner la tête. Sur la tête rousse, la mal aimée, le vent dégrafait lentement de larges feuilles noires et rouges. Elle, comme il l'aurait réchauffée. Oui, c'était lui le vrai coupable, le vent du nord, l'impétueux, posant ses mains rêches d'onglets sur le ventre ocre des nuages. faire suite à cet extrait de la sonate de Beethoven, le printemps, sonate pour violon et piano numéro 5 par Patrice Fontanarosa, Claude Saint-Ignan va nous lire son poème « La sonate du printemps ».
Et ce joli printemps à la bouche des jours, ses feuilles à peine vertes, aussi la mousse blanche de ses fleurs parfumées éclairant chaque branche qui sort en douloris des douleurs, des rigueurs de l'hiver. Et ces mots que l'on tait, tous ces secrets charmants, aveux rien que des yeux sans que les mains se touchent, ces lèvres qui se gonflent sans que s'ouvrent les bouches, on renonce à parler, on tremble en y pensant. Les fenêtres s'entrouvent, aux boucles dans le vent, on s'invente des bonheurs frivoles, sans consistance, on a peur de rêver, on craint ses espérances. On écoute Beethoven, la sonate du printemps, puis on dort sur sa couche en portant avec soi la faute oubliée dans les pages d'un livre de l'icône adorée, dont notre cœur s'enivre. On osera parler, mais la prochaine fois.
Donc ce poème est issu de L'Embellie, qui est un manuscrit écrit par vous, Claude Saint-Ignan, en hommage à Jean Ferrat, à cette belle chanson L'Embellie, dans l'esprit de ce beau poème chanté. Alors, vous alternez des poèmes et des représentations de tableaux de Louis Valta. C'est une poésie rimée, conjuguée sous forme de quatrains, de sonnets. Le paysage introduit des poèmes empreints de nostalgie selon des thématiques abordant l'amour, les amis perdus, la vieillesse, les poèmes fêtent les saisons, les mois, les couleurs. Et effectivement, l'univers de Louis Valta est très coloré, picturellement parlant, très foisonnant en couleurs d'automne, de printemps. Vous allez nous proposer une lecture ou...
Oui, alors, je veux dire quelques mots en vitesse sur cette rencontre. C'était au musée de l'Odève. C'était une exposition qui avait été organisée par Madame Vallès-Bled, qui maintenant, à cette époque, elle était au musée de l'Odève. Maintenant, elle a longtemps travaillé au musée de Sète, là, au musée de Sète. Paul Valéry de Sète, exactement, oui. Où elle a fait aussi un énorme travail. Là, et donc, quand j'ai visité cette exposition Louis Valta à l'Odève, vraiment, j'ai été frappé par le goût du bonheur de ce peintre. C'est ce qu'on appelle un petit maître du 19e, mais ce qui le caractérise, c'est le goût du bonheur. Et je me suis dit, c'est vrai que le bonheur, ça existe. Et c'est le moment où, effectivement, j'ai réécouté, enfin, ben, je le connaissais déjà, mais j'ai réécouté L'Embellie de Jean Ferrat. Et ce qui fait la force et la beauté de Jean Ferrat, c'est cette volonté de dire que le monde est beau. Ce matin-là, il y a une émission qui a été faite sur votre antenne, et c'était des personnes handicapées qui l'ont faite. Et comme quand je suis arrivé, elle sortait du studio, j'ai parlé un petit peu avec ces personnes. Et bien, ce qui les caractérisait, c'est qu'elles avaient tous un sourire immense et elles remerciaient la vie et elles étaient heureuses. Et ça, je crois que c'est très important.
Alors, ce poème que nous allons écouter s'appelle « Soir de septembre ». Fait face à une superbe peinture à l'huile dans des teintes violettes, rouges, orangées, un petit peu de vert.
La nature silencieusement a pris des teintes d'aquarelle. Arbres dorés, vignes de sang, la vie du ciel mauve comme une aile, l'insoutenable volupté d'être vivant, invraisemblable, dans le bonheur d'un tour de table au milieu d'amis bien-aimés. On souhaiterait tant remercier le pont, l'eau noire, l'air doux, la vague, mais on reste là, dans le vague, délicieusement embarrassé.
Sunset Years. Dans l'isolement tardif du jour, attentif à la musique douce de la pluie pépillant sur la mousse, à demi-mot et en ton sourd, sous la pentille près de la pompe où jadis ruminaient les bœufs, il écoute comme un aveu le pré qui lentement s'inonde. La pille stricte en frac de soirée glisse furtive dans le jour bistre. Comme s'il était rôdeur sinistre, elle semble le surveiller. encore un faiseur de sonnets, un parmi d'autres sur la liste, qui raconte des fables tristes en croyant d'amour nous parler. Amour du vent, du banc de pierre, amour au ciel, du nuage blanc, amour qui rêve doucement près du vieux mur couvert de lierre, amour, amour du chemin lent, amour du nid dessus la branche, de l'arbre nu, de l'aile blanche, amour du jour se finissant, amour, amour qui tient à peine ce qu'il nous reste de chemin, mais qui nous tend encore la main avant que l'heure sonne et vienne, et les fantômes de la lande sur les bruyères détrempées, avec la ronde des regrets, danse de souples arabesques. Écoutons l'éternité.
Cette émotion renouvelée d'écrire pour soi un lent poème, sans autre but que de rêver et d'inventer de longs thèmes simplement pour l'éternité. Comme le fait l'oiseau qui glisse pour le seul plaisir de voler sur cette mer vaste qui plisse ses vagues sombres blancs ourlés, simplement pour l'éternité. Le soleil d'hiver éclabousse l'horizon d'encre vert et violet. Le mont y prend des teintes rousses, l'estran mélange, écume et mousse. Simplement pour l'éternité. Il pense au poète qu'il aime et à tous ceux qui l'ont quitté. Il compte comme une rengaine ce qui lui reste de semaine. Simplement pour l'éternité. Tout le bonheur de ce silence, juste quelques psites, psites d'oiseaux flûtés et le ressac dont les cadences rappellent un bercement d'enfance. Simplement pour l'éternité. Le monde est vert comme un poème, le monde est beau à le chanter, le monde est fort et nous entraîne dans l'amour, les joies et les peines. Simplement vers l'éternité.
Et nous allons nous laisser enchanter par cette superbe chanson de Jean Ferrat, celle qui a inspiré l'écriture de Claude Saint-Aignan du recueil éponyme « L'embellie ».
Écris quelque chose de joli, des vers peut-être ou de la prose, un instant de rêve et de pause dans le tumulte de la vie. Écris quelque chose de joli, quelques mots de bleu et de rose, un moment de métamorphose que tu nommerais l'embellie. Verse un peu de joie dans nos cœurs, avec des riens qui vous délivrent, un peu d'espoir et de douceur, on en a tant besoin pour vivre. Écris quelque chose de joli, l'odeur des lilas et des roses, chante-nous la beauté des choses dans les yeux de l'homme ébloui. Écris quelque chose de joli, l'aube entre nos bras qui repose, la seconde où lèvres mi-closes, le plaisir vient comme la pluie, l'embellie.
Une partie de ce recueil, l'embellie, célèbre la peinture de Vincent Van Gogh. Nous allons partir sur les pas de Vincent, sur les chemins d'Arles. Claude.
Le jour revient blanche auréole, Le jour qui porte un peu plus loin, au pas du voyageur s'envole, la rosée au bord du chemin. La rosée au bord du chemin, ornant les toiles des épères, brille comme un million de perles au soleil rasant du matin. Au soleil rasant du matin, bâton en main, sac sur l'épaule, Van Gogh reçoit comme une obole le vrai bonheur d'aller plus loin. Le vrai bonheur d'aller plus loin et de porter comme un symbole le chevalet sur ses épaules dans l'or, les perles du chemin.
Le poème suivant s'intitule « Campement de Verdine » et il fait... Il est le pendant de ce très beau tableau « Campement de Bohémiens » par Vincent Van Gogh, sur lequel on voit des roulottes, des chevaux, qui est très connu.
Les roulottes, c'est les verdines.
Les verdines,
c'est le terme.
Très bien. Les feux follets des joncs dansent dans le soleil. Le vent pousse les nuages aux liserés dorés, loin des roulottes de bois vermoulu, quand sommeille le beuglement des bœufs aux confins des marais. L'envol majestueux du grand héron cendré y monte avec la grâce d'une estampe japonaise, quand une barque ride la roubine noire laquée, juste avant d'accoster l'embarcadère de Glaise. La Camargue assoupie, rêve de Vincent Van Gogh, de fenêtres fleuries, de chevaux, de verdines, les gâteaux des violons, pincés des mandolines, y chantent en gitant l'amour et le sanglot. Si le soir est morose, la nuit adamantine, éclairée par la diane, a des souffles langoureux. La fuite d'une robe dans les joncs s'y devine quand la mousse des berges accueille les amoureux. Ce qui est fascinant chez vous, et je vous connais depuis peu de temps, Claude Saint-Signan, c'est cette faculté à vous intéresser à toute chose. On peut discuter avec vous à bâton rompu, comme aurait dit Jean Ferrat, on ne voit pas le temps passer. Alors, je serais curieuse de connaître ce qui a pu vous amener cette culture aussi polymorphe que je découvre.
Bon, ben c'est que j'ai pu réaliser dans ma vie un rêve là que je poursuivais sans doute secrètement depuis l'enfance, c'est-à-dire que au mi-temps de ma vie, j'ai pu m'installer comme libraire, enfin papeterie, librairie à la Grande Motte, et puis j'ai pu vendre des livres que j'aimais. Vous voyez ce qu'on a découvert avec mon épouse quand on a tenu cette librairie à la Grande Motte. Alors, cette librairie avait la particularité d'être au bord de la plage et saisonnière, ce qui me permettait d'écrire l'hiver. Il y avait aussi cette libération-là. Et ce que nous avons découvert avec mon épouse quand on a tenu cette librairie, c'est que on a sélectionné les livres qui nous plaisaient. Et notamment, on a rendu la vie aux livres. Parce que, contrairement à ce qu'on prétend, les livres meurent. Et je veux dire même qu'ils meurent plus vite que leurs auteurs. Et nous, on avait remis au goût du jour, enfin pas au goût du jour, on les avait mis sur nos rayons, La condition humaine de Malraux, Les mots de Sartre, Le baron Percher. Enfin, je pourrais comme ça citer beaucoup de titres. Mais c'était surtout le fait que c'est dommage, il y a trop de prix littéraires et pas assez de libraires. Voilà le fin mot, c'est ça. Il faudrait que les libraires soient les vrais médiateurs du livre et au lecteur.
Alors, vous vous prononcez sur de nombreuses théories. La faille du rire, contradiction entre réalité biologique et élan vers l'harmonie. Ça, j'ai beaucoup aimé. Vous évoquez pour nous les plages du Trias, la place du rire, aussi indispensable, dites-vous, à l'esprit, que l'analgésie à la douleur. J'ai en main un autre de vos écrits, La transparence du monde, une étude que vous consacrez à Arthur Rimbaud. Vous dites... En invoquant son éternité de race inférieure, Arthur Rimbaud rappelait à quel point il était, parce que poète, essentiellement nègre, indien, frère humain, hors de l'histoire. Son ambition était par le langage de nous rendre libres en nous émancipant de la tutelle tyrannique des modes du temps, comme nos malheureux frères sur le fer, avant que la civilisation ne les mette au pas. Et vous établissez un parallèle entre la tribu des Indiens des plaines et, je cite, « la courte et prodigieuse vie d'Arthur Rimbaud ». Je vais citer un extrait d'un poème que vous avez écrit, « Semelle de vent ». Semelle de vent, Ainsi l'appelaient quelques salons à Paris. Ils avaient voulu y mettre une connotation blessante, ironique, un rien de suffisance et de mépris à tout ce qui était l'ailleurs de leur monde. Ils disaient aussi « sauvage, canac, nègre ». Ils ne savaient pas qu'ils lui donnaient un vrai nom d'indien, un nom comme « Red Cloud », « White Bear », « Crazy Horse », un nom d'homme, un nom qui fait honneur à porter. Se mêle de vent et le nom s'enflait comme les voiles blanches d'un navire. Le nom devenait renommé, se mêle de vent et les vrais hommes relevaient la tête, évoquant l'ombre du marcheur, du coureur de désert, du poète solaire. Se mêle de vent et les palmiers transfigurés devenaient fantômes, devenaient le corps irréel des vrais poètes disparus. Se mêle de vent. Et les voiliers réapparaissaient dans les criques, se mêlent de vent, et le monde dansait sous le soleil de 10 heures, déjà haut, incandescent, irradiant l'eau du golfe, les palmiers et l'univers qui devenait lentement invisible. Nous allons écouter un poème chanté dans la collection Poésie et chansons, chanté par Colombe Frézin, L'étoile a pleuré rose. Mais Claude Saint-Ignan, j'ai beaucoup apprécié votre travail fondé sur la lumière, la vision, le langage, l'acte poétique sous forme d'édification intérieure. Pour les auditeurs qui seraient tentés de retrouver votre écriture, comment peut-on nous procurer certains de vos manuscrits ou même vous rencontrer.
Si bon, bah, écoutez, pour le moment, j'ai des manuscrits. Bon, j'ai publié il y a 40 ans, à peu près, si vous voulez, là, 40 ans, il y a 50 ans en arrière, j'ai publié à compte d'auteur un roman, un recueil de nouvelles qui avait le même sujet, l'estuaire de la Gironde, et puis un recueil de poèmes. Alors, malgré que ce soit du compte d'auteur, j'avais fait 2 pages dans le Nouvel Observateur à l'époque, ce qui était pas mal pour du compte d'auteur, mais depuis, je sais pas, j'ai essayé. Oui. Et bien sûr, je vois régulièrement des manuscrits chez les éditeurs, mais bon, je peux dire que je n'ai pas eu de succès. Donc, si vous voulez, j'ai des manuscrits. Ce que je fais, je les offre quand je vais manger chez des amis.
Donc, on peut vous retrouver éventuellement à la Maison de la Poésie, quand même.
À la Maison de la Poésie,
par exemple.
Voilà. Voilà, vous le savez, j'ai laissé quelques écrits à la Maison de la Poésie.
Eh bien, merci Claude Saint-Ignan de vous être prêté à cette interview. Et on retrouvera l'émission sur les podcasts.
C'est moi qui voudrais vous remercier, Marianne Sarlata, parce que ce que vous faites pour les poètes, là, sur le plan de Montpellierin, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Vous donnez la parole, vous ouvrez l'horizon, c'est merveilleux.
Merci Claude, c'est naturel.
L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles. L'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins. La mer a perlé rousse à tes mâmes vermeilles. Et l'homme saigné noir à ton flanc souverain.